VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Bangui, bienvenue à notre journal. Crise migratoire, des migrants secourus en Méditerranée et débarqués à Kalamata en Grèce disent avoir assisté à un naufrage et en fait jusqu'à 500 morts. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Ces 41 migrants, originaires de Somalie, du Soudan et de l'Érythrée, décrivent un grand naufrage qui a eu lieu en mer, en Méditerranée, et qui a tué environ 500 personnes, a souligné à l'AFP Carlotta Sami, porte-parole du HCR pour l'Europe du Sud, basée à Rome. Afrique maintenant, en Mauritanie, la Cour suprême examine depuis hier le pourvoi en cassation de 3 militants anti-esclavagistes condamnés à 2 ans de prison. Plus de détails avec Idriss Fall.
Biram Ould Da Ould Abeid, président de l'ONG anti-esclavagiste IRA Mauritanie, son adjoint Brahim Ould Bilal et Djibi Sow ont été condamnés en janvier 2015 à 2 ans de prison et leurs peines ont été confirmées en appel en août dernier. Ils ont été reconnus coupables d'appartenance à une organisation non reconnue et de rébellion contre la force publique. Djibi Sow a bénéficié en juin 2015 d'une mise en liberté provisoire pour raison de santé. Maître Brahim Ould Ebeti, leur avocat, demande l'annulation de toutes les procédures et leur libération. Le dossier est devant la Chambre pénale de la Cour suprême qui doit examiner ce pourvoi en cassation. Depuis 1981, l'esclavage est aboli en Mauritanie, mais le phénomène persiste. En août 2015, une nouvelle loi a été adoptée réprimant cette pratique par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison contre 5 à 10 ans auparavant. Le pays s'est doté en décembre de 3 tribunaux spécialisés dans les affaires d'esclavage et le mois dernier a décrété le 6 mars, journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes.
Lutte contre la corruption au Nigeria. Le gouvernement du président Muhammadu Buhari a découvert quelque 17 000 fonctionnaires fantômes de plus, ce qui porte le nombre d'emplois fictifs à plus de 37 000. En février, le ministère des Finances avait annoncé la radiation de 20 000 salariés fantômes. Élection présidentielle au Tchad. Les résultats du scrutin ne sont toujours pas connus, mais les évêques catholiques du pays craignent des violences post-électorales. D'où le rappel au pouvoir et à l'opposition en faveur de l'apaisement à la réunion de la conférence épiscopale à N'Djamena. Un extrait de cette déclaration lu par Mgr Jean-Claude Bouchard, président de la conférence épiscopale, au micro de notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Au moment où les citoyens de notre pays attendent avec impatience les résultats du scrutin du premier tour des élections présidentielles, nous, évêques du Tchad, constatons avec inquiétude le climat de grande tension qui s'est installé dans notre pays. Aussi, nous demandons instamment aux acteurs tenant du pouvoir et opposant de tout mettre en œuvre pour que les intérêts supérieurs de la nation soient préservés et que la paix et la stabilité du Tchad restent leur objectif ultime. Cet appel s'adressait aussi à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté que nous invitions à faire montre de responsabilité, de sagesse, de respect de l'autre et de nos textes fondamentaux. Nous devons à tout prix préserver l'unité et la paix en évitant toute violence.
Un extrait de la déclaration de la conférence épiscopale catholique du Tchad lors de sa réunion à N'Djamena. La République centrafricaine vient de prendre part aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI ici à Washington. Le pays qui tente de sortir de 3 ans de crise fait face à d'énormes défis. Le ministre centrafricain de l'économie, Félix Moloa, situe les enjeux. Au micro de Pascaline Mamoko.
La question maintenant revient aux centrafricains de maintenir le climat apaisé parce que nous devons tourner complètement la page. Nous devons gérer avec la bonne gouvernance, comme le président l'a si bien prôné, pour drainer des partenaires et des investisseurs au pays, pour booster donc le secteur privé et créer de l'emploi. Cette question de déplacer du secteur privé, et nous les avons longuement discuté avec nos partenaires, qui ont manifesté leur disponibilité à nous aider. Alors maintenant, il faudrait qu'on se remette au travail et changer notre manière de nous comporter et de traiter les dossiers à temps. Et là, j'y veillerai de manière exceptionnelle, de telle manière que toutes les compétences soient mises en compétition parce que nous devons sortir ce pays de cette zone de fragilité et de conflit.
Le ministre centrafricain de l'économie, Félix Mauloy.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise au Burundi, Washington hausse le ton contre le régime du président Pierre Nkurunziza. Thomas Perriello, émissaire spécial du président Barack Obama dans la région des Grands Lacs, estime que le gouvernement burundais est la cause de la crise qui secoue le pays depuis un an. Et puis en Zambie, deux personnes brûlées vives lundi à Kanyama, un bidonville de Lusaka, la capitale, lors d'émeutes xénophobes visant des Rwandais soupçonnés de crimes rituels. La situation est relativement calme ce mercredi. En RDC, trois soldats gouvernementaux sont morts de leurs blessures après une attaque des rebelles Hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, dans la nuit de mardi à mercredi à Buvunga, à environ 47 km de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Ces rebelles rwandais sont présents dans la région depuis la fin du génocide de 1994 au Rwanda voisin. Et Kigali les considère comme une menace stratégique majeure, même s'ils n'ont pas mené d'opération d'envergure en territoire rwandais depuis des années. Samedi dernier, le Rwanda a accusé des présumés éléments terroristes FDLR en provenance de la RDC d'avoir attaqué un poste de police dans sa partie ouest frontalière de la RDC. Actualité hors d'Afrique maintenant, le président Barack Obama a entamé sa brève visite en Arabie Saoudite par un tête-à-tête à Riyad avec le roi Salman. Le chef de l'exécutif américain doit prendre part à un sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe. Son séjour d'un peu plus de 24 heures intervient sur fond de tension dans les relations américano-saoudiennes. Lionel Gaïma.
À sa descente d'Air Force One à l'aéroport international Roi Khalid, le chef de l'exécutif américain a été accueilli par un officiel de moindre rang, le prince Faisal Ben Bandar Al Saoud, gouverneur de Riyad. Son arrivée n'a pas été retransmise en direct par la télévision nationale saoudienne. C'est un signal sans équivoque de Riyad. Parmi les griefs de l'Arabie saoudite au président américain, il y a l'accord nucléaire conclu avec l'Iran, sa grande rivale, mais aussi l'approche américaine de la crise en Syrie. C'est au palais Erga de Riyad que le roi Salman a accueilli le président Obama. Les deux hommes ont échangé des salam alek d'usage avant leurs entretiens à huis clos. Parmi les officiels accompagnant le président Obama, le secrétaire de la Défense Ash Carter, qui a exhorté les pays du Golfe à apporter un plus grand soutien économique et politique à l'Irak.
Les chefs de la diplomatie des États-Unis et de l'Iran ont annoncé avoir fait des progrès lors d'une rencontre à l'ONU mardi sur l'application de l'accord sur le nucléaire iranien. John Kerry et Mohammad Javad Zarif ont indiqué qu'ils s'entretiendraient à nouveau vendredi. Course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump repartent en campagne après leur victoire éclatante hier soir aux élections primaires de l'État de New York. Un succès qui augmente leur chance de devenir les candidats de leur parti respectif à la présidentielle de novembre. Le compte-rendu de Jacques Aristide à New York.
Des coups sévères apportés à leurs rivaux par deux candidats qui comptaient énormément sur leur lien avec New York pour les propulser vers la victoire. Et ils ne se sont pas trompés. Hillary Clinton, qui a représenté cet État au Sénat américain à deux reprises, obtenait environ 58% des suffrages contre son seul et unique concurrent, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Pour les observateurs, le succès de Mme Clinton à New York gonfle ses chances de représenter son parti dans la bataille pour la Maison-Blanche. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a lui repris le contrôle de cette course à l'investiture.
This has been an incredible evening. It's been an incredible day and week.
Le New Yorkais l'emportait par un peu plus de 60% face à ses deux rivaux, le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, et le sénateur du Texas, Ted Cruz. Jacques Aristide, New York, pour VOA Afrique.
Et pour terminer, le processus de paix au Soudan du Sud est en danger, selon l'ancien chef d'État botswanais Festus Mogae, qui préside la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix signé le 26 août 2015. La raison serait l'incertitude pesant sur le retour du chef de l'ex-rébellion Riek Machar dans la capitale Juba pour y prendre ses fonctions de vice-président. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.